La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Leïla Sebar. Vous publiez un nouveau recueil de nouvelles intitulé « Dans la chambre » aux éditions Bleu Autour. Bonjour.
Bonjour.
Alors Leïla Sebar, vous avez écrit de nombreux romans, mais vous êtes également connue pour vos nouvelles. Vous avez ainsi publié « La jeune fille au balcon » ou plus récemment « L'Orient et le Rouge ». Les récits courts de ce nouveau recueil ont pour point commun de raconter des destins de femmes avec comme fil rouge la chambre. Virginia Woolf avait écrit « Une chambre à soi ». Vous-même, c'est important, la chambre dans votre univers?
Oui, la chambre, c'est important. C'est important comme espace de travail et de lecture, essentiellement. Bon, de sommeil, quand même. Et je crois que ce goût de l'espace clos, ou cette peur aussi, hein, je veux dire, il y a les deux, tient à ma propre vie, parce que j'ai le sentiment que j'ai toujours été enfermée. Toujours. Je veux dire, enfant, je vivais dans l'Algérie française et coloniale, et on ne laissait pas les filles sortir seules. Je ne suis jamais sortie seule dans la rue, sauf pour aller à l'école de filles qui était en haut du village, près de Tlemcen. Sinon, je ne sortais pas seule.
La chambre, ça représente aussi l'intériorité?
Oui, je pense. Ah oui, oui.
Au milieu de ce recueil, il y a cette phrase « J'entends les voix des femmes arabes ». C'était cela, votre projet, faire entendre les voix de ces femmes?
Pas seulement.
Il y a des hommes aussi.
Oui, oui. Quelques hommes, oui, oui. Non, c'est vrai que je m'aperçois, après quelques années, que dans ce que j'écris, je cherche les femmes arabes. Dans ce que j'écris, dans ce que je regarde, dans ce que je vois, dans mes promenades, dans mon goût pour la peinture orientaliste, ou la photographie orientaliste, toujours je cherche les femmes arabes. Et je me suis demandé quand même pourquoi. Parce que je ne les connais pas. Je n'ai jamais vécu avec elles. Jamais. Je les ai vues, beaucoup vues. Je les ai entendues, beaucoup entendues. Mais je n'ai jamais vécu avec elles, sauf avec Aïcha et Fatima, dont je parle dans Je ne parle pas la langue de mon père. Et je crois, enfin, j'ai compris, ou je crois avoir compris, que je cherche les femmes de mon père. Non pas d'un père polygame, mais les femmes du peuple de mon père.
Puisque votre père était algérien et oui, votre mère était française.
Oui, oui.
Leïla Sebar, vos nouvelles sont traversées par l'histoire. La colonisation, la guerre d'indépendance de l'Algérie, l'immigration, les années noires en Algérie. On retrouve des rues avec leur nom du temps de la colonisation, la rue d'Isly par exemple. Il y a les cafés algériens en France, les foyers d'immigrés. Et puis on retrouve aussi des noms qui sont déjà présents dans vos livres précédents. Je pense à la ville d'Aflou, oui. Et puis à ce prénom, Sherazade.
Oui, c'est vrai, oui. Sherazade, c'est, disons, la première héroïne de mon travail romanesque. Et elle est le personnage d'une trilogie, Sherazade. Et c'est une jeune fugueuse qui quitte la banlieue pour Paris dans les années 80. Et bon, c'est un roman d'une certaine manière, un roman d'initiation, un roman d'aventure. Et dans les autres volumes, elle part au Moyen-Orient. Elle va en Israël et en Palestine. Et elle revient pour faire un film dans la cité de... Je crois que c'est Aulnay-sous-Bois, là où elle est née. Donc c'est un périple, comme ça, initiatique. Il y a des rencontres, il y a des histoires un peu invraisemblables. C'est comme un conte. Enfin, moi, je l'ai écrit un peu comme un conte. Et c'est une jeune fille qui n'est pas une victime non plus. Très important pour moi.
Et vous l'avez qualifiée de fugueuse. Des fugueuses, il y en a plusieurs dans ce recueil de nouvelles dans la chambre.
Il y en a toujours dans ce que j'écris.
Y compris Isabelle Ebrard, qui est une fugueuse par excellence.
Ah oui, c'est la fugueuse. Elle traverse la Méditerranée depuis la Suisse, où elle vit avec ses parents russes en exil. Et elle va en Algérie comme une aventurière. Elle a appris un peu d'arabe avec les Égyptiens qu'elle a rencontrés à Genève. Et quand elle arrive en Algérie, je crois qu'elle arrive à Batna, je crois. Non, pas à Batna, à Beaune. Et elle apprend l'arabe. Elle se convertit à l'islam. Elle a une vingtaine d'années. Et elle va parcourir l'Algérie à cheval.
Et dans la nouvelle que vous avez écrite, vous la décrivez en train de faire la connaissance d'une femme qui est chef d'une confrérie soufie.
La confrérie d'El Amel à Boussaada, qui existe toujours. Et cette Lela Zeynep a été la première chef de confrérie. Parce que les femmes, en général, il y en a eu quelques-unes dans l'histoire de l'islam, mais peu. En général, ce sont des hommes. Et elle était la fille du grand chef de la confrérie. Et quand il est mort, et avant de mourir d'ailleurs, il a dit « ce sera elle, ce sera ma fille ». Parce qu'elle était savante dans les sciences religieuses, en poésie, dans... toutes les matières qu'on pouvait enseigner à l'époque.
Et c'est une femme qui vous fascine autant qu'Isabelle Ebrard.
C'est vrai, parce que je veux dire, les femmes qui me fascinent sont des, on pourrait dire, des irrégulières, qui ne sont pas assignées à la maison, au foyer, aux enfants. Lela Zeynep n'a pas eu d'enfant, elle ne s'est pas mariée. Isabelle n'a pas eu d'enfant, elle s'est mariée. Mais elle s'est mariée avec Slimane, qui était un spahi. Et c'est par Slimane qu'elle a eu la nationalité française, alors qu'elle était sujet russe, elle.
Le fil rouge de ces nouvelles, c'est une chambre. Mais il y a aussi d'autres lieux. Il y a le balcon que l'on retrouve. Et puis, les bains morts. Ils sont très présents dans ce recueil de nouvelles.
Ah bon? Tant que ça.
Ah, j'ai remarqué, oui.
Ah, moi non. C'est vrai. On n'est pas vu autant. Dans Les femmes au bain, oui, hein, parce que c'est un roman.
Ils sont évoqués, de toute façon, ces bains morts, à un moment donné ou à un autre.
Oui, c'est possible que les bains morts soient évoqués, parce que, bien sûr, la chambre de bain est une chambre de femmes, hein, où les femmes se racontent des histoires. Et justement, à propos d'Isabelle Ebrard, elle avait horreur d'être en compagnie des femmes. Elle n'était jamais en compagnie de femmes, jamais. Elle n'aimait pas le bavardage des femmes, ça l'ennuyait, elle s'ennuyait avec elles, et elle cherchait toujours l'aventure, non pas avec les hommes, mais une aventure qu'elle ne pouvait vivre qu'avec des hommes dans le désert, bien sûr.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Leïla Sebar. Je rappelle que vous publiez ce très beau recueil de nouvelles intitulé « Dans la chambre », préfacé par Michel Perrault. On se retrouve dans quelques instants.
La bibliothèque de Radio-Orient avec Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de la bibliothèque de Radio-Orient. Nous sommes toujours en compagnie de la romancière et nouvelliste Leïla Sebar. Vous publiez un nouveau recueil de nouvelles intitulé « Dans la chambre » aux éditions Bleu Autour. Ces 19 nouvelles sont regroupées dans trois parties. Si elles ont en commun la référence à la chambre, elles nous parlent de bien plus que de cela. Elles brassent à la fois la rive sud et la rive nord de la Méditerranée.
Oui, c'est cet espace qui m'intéresse dans tout ce que j'écris. C'est l'espace méditerranéen. Et cet espace méditerranéen, enfin la mer Méditerranée, qui est une mer fermée, a beaucoup enfermé ses femmes. Et donc, on les retrouve dans les chambres, dans les bordels, dans les prisons, dans les cellules de confrérie, enfin, tout ce qui est un espace clos où peut vivre une femme.
Alors j'ai envie de citer un extrait de votre recueil de nouvelles. C'est donc une nouvelle qui s'intitule « Strasbourg, l'atelier ». L'imprimeur lui a confié des cartes postales de scènes et types. Un olivier centenaire, un vieil homme burnous blanc, des garçons assis en tailleur les pieds nus, chéchia rouge, une longue baguette frappe l'épaule d'un écolier debout. Au fond, petit pan de mur jaune, elle lit le maître d'école. Une tente, des roseaux verts, une femme assise, robe longue bleue, elle tient une poupée en chiffon. Des enfants regardent, deux filles, deux garçons, pieds nus, foulard noué, robe jaune, chéchia rouge, on ne voit pas les visages, elle lit « La poupée arabe, c'est la fin du jour ». Ça, ce sont des cartes postales que...
C'est l'atelier d'une coloriste. C'est-à-dire que les cartes postales, c'était une industrie extraordinaire au XIXe siècle. Et on avait pour tout le monde et partout. Et ces cartes postales coloniales, exotiques, avaient beaucoup de succès. À partir de photos, il y avait ces cartes postales, parce qu'on les développait en nombre. Et puis... les cartes postales en noir et blanc étaient colorisées dans des ateliers particuliers en France et en Algérie aussi. Il y avait des villes où on pouvait coloriser les cartes postales. Donc, cette jeune femme dont il est question colorise les cartes postales pour les vendre.
Et vous vous demandez toujours qui sont les inconnus qui sont photographiés sur ces cartes postales, ce qu'il y a derrière la photographie, c'est ce qui vous intéresse?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ce qui m'intéresse. Je sais que certaines cartes postales m'intéressent. J'ai collaboré à un livre de cartes postales coloniales publié aux éditions Bleu Autour avec Christelle Tarot et Jean-Michel Bélorger. Et c'est des cartes postales de femmes du Maghreb et du 19e au début du 20e siècle. Et elles font partie de ce que j'appelle le peuple de mon père. Et moi, j'ai collectionné les cartes postales coloniales, de femmes en particulier, et j'en ai jamais parlé à mon père. Parce que je savais que... Il aurait un discours critique parce que ces femmes étaient souvent des femmes qu'on allait chercher dans les bordels pour les photographier, les habiller, les déguiser et en faire des scènes et types de cartes postales coloniales. Et je pense que mon père n'aurait pas aimé.
De la même façon que vous aimez regarder ces cartes postales coloniales, vous aimez relire les ouvrages des écrivains voyageurs que vous citez dans la nouvelle intitulée « Strasbourg, l'atelier ». Je pense au récit de voyage d'Eugène Fromentin en Algérie, mais aussi de Maupassant.
Oui, bien sûr. Oui, j'en ai lu beaucoup. Et les peintres voyageurs de cette époque, il y a eu une très belle exposition à Roubaix, au musée de la piscine, de Gustave Guillaumet, qui était un amoureux de l'Algérie, qui est allé une dizaine de fois et qui a peint l'Algérie nord-sud, est-ouest, comme un... Quand je dis amoureux de l'Algérie, ça veut dire amoureux aussi des personnes qu'il a pu rencontrer, qu'il a pu voir, même s'il n'a pas parlé avec elles, et qu'il ne cherchait pas l'exotisme et l'érotisme du côté des femmes. Donc c'est une peinture du réel, beaucoup plus que du fantasme.
Leïla Sebar, dans une de ses nouvelles, vous parlez de Tisserande, originaire d'Afflou, qui est votre ville de naissance. Elle travaille en France, à Lodève, pour la manufacture des Gobelins. Ces femmes sont inspirées de la réalité ?
Oui, à Lodève, il y a une communauté de harkis venus de la région d'Afflou, des Hauts-Plateaux, avec leurs femmes. Et les femmes étaient tisserandes. Et les tapis d'Afflou sont très beaux et très réputés. Et quand elles sont arrivées à Lodève, il y a un atelier de tissage. Et elles ont été employées à l'atelier de tissage. Et leurs filles ont appris à tisser, parce qu'elles ont emporté les métiers à tisser depuis leur village natal. Et souvent, les filles ont été envoyées aux Gobelins, à Paris, pour être des tisserandes, parce qu'elles étaient, elles avaient un savoir-faire extraordinaire.
Vous-même, Leïla Sebar, en écrivant, vous avez le sentiment d'être une tisserande en tissant toutes ces histoires ?
Ah, on peut adhérer à cette métaphore. Mais, oui, je sais pas si je tisse, mais j'aime ces croisements et ces entrelacements des deux rives, des deux histoires, des deux langues, même si je ne connais pas la langue de mon père, je suis toujours dans ce travail-là, c'est vrai.
Vous êtes l'une des rares romancières et nouvellistes à parler des Chibani, à parler des anciens, ceux qu'on ne regarde plus et qui sont pourtant bien là et à qui on doit beaucoup. Une nouvelle est consacrée à une Chibania mariée à un homme qui habite en France. Elle est couturière à domicile. C'est une femme qui attend le retour de son mari. Ils vieillissent tous les deux, de part et d'autre de la Méditerranée. Et vous aimez les femmes qui agissent. Cette femme, elle va agir. Elle va débarquer un jour à Marseille. Et son mari se permet alors un geste très beau, un geste de tendresse envers elle.
Oui, parce que il est malade et il réclame sa femme. Et il ne veut qu'elle. C'est comme dans une chanson, je ne veux qu'elle. Et elle arrive. Il est très heureux. Et il se permet, comme vous le rappelez, des gestes d'amour pour cette femme-là. Et il la serre dans ses bras, ce qui ne se fait pas en public, parce qu'il n'est pas seul dans sa chambre de foyer. Il doit y avoir deux autres personnes. Et il la serre dans ses bras, il l'embrasse. Et c'est le dernier geste, puisque on comprend qu'il meurt.
Et dans ce recueil, vous décrivez aussi les cafés algériens, notamment un café algérien à Belleville, comme il en existe des dizaines à Paris et en banlieue, et bien sûr dans plusieurs régions de France. Ce sont des endroits qu'on reconnaît immédiatement quand on franchit la porte.
Oui, enfin... Ils disparaissent de plus en plus, ces cafés algériens. Ils disparaissent. Parce que les Chibani meurent. Aujourd'hui, les Algériens rachètent, en gérance ou pas, je ne sais pas, des cafés français dans des quartiers populaires. Et ces cafés ne sont plus fréquentés seulement par des Algériens. Alors que c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Mais depuis... On s'aperçoit, en tout cas moi je le vois dans mon quartier qui est le 13e, qui est un quartier très grand dans Paris, ou quand je voyage en France. je vois que c'est toujours des cafés, tabac, loto, tiercé, parce qu'ils aiment beaucoup jouer au loto.
Votre recueil de nouvelles, c'est aussi une façon de retenir le passé, de raconter ce qui ne sera peut-être plus.
Je pense que c'est aussi un travail de mémoire, oui, mais pas simplement. Je veux dire, je ne suis pas dans la nostalgie. Enfin, peut-être un petit peu, quand même, mais ce n'est pas d'abord la nostalgie. C'est-à-dire que c'est un travail de mémoire, dans le moment même aussi, hein, où passé, présent et futur, c'est-à-dire dans la question et le questionnement de la transmission, se posent.
Merci Leïla Sebar. Je renvoie nos auditeurs à ce très beau recueil de nouvelles intitulé « Dans la chambre » avec une préface de Michel Perrault et puis des aquarelles magnifiques de Sébastien Pignon, un livre publié aux éditions Bleu Autour.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.